Vous écoutez, on lit pour vous.
Se soigner grâce à l'aventure. Un texte de Rose-Aimée Autonne T. Morin, paru le 22 avril 2026 dans La Presse. Pour plusieurs, c'est une première expérience à bord d'un voilier. L'aventure est d'envergure. Ensemble, elles apprennent à naviguer et surtout à faire confiance à leur corps. Quand Ariane Magny a entamé son processus de rétablissement, elle a constaté que l'un de ses plus grands défis serait de s'identifier hors du spectre de son trouble alimentaire. Elle était plus qu'une maladie, mais qui était-elle? Le jour où la bachelière en psychologie a commencé à s'intéresser à l'intervention par la nature et l'aventure, c'est cette expérience qui a influencé la suite des choses. Elle aiderait des jeunes femmes qui composent avec le même défi, et elle le ferait en leur faisant partager sa passion, la voile. Ariane et sa mère, Nathalie Isabelle, ont cofondé la Croisière des Alizés en 2021. Depuis, une centaine de filles et jeunes femmes qui se rétablissent de troubles du comportement alimentaire ont participé aux activités de l'organisme, que ce soit lors de projets menés avec des partenaires, comme la Maison L'Éclaircie et le CI3S de la Montérégie Centre, ou dans le cadre de son programme ouvert à toutes. Le recrutement des participantes de la prochaine croisière des Alizés bat d'ailleurs son plein. Cette aventure annuelle permet à 6 personnes de naviguer 3 jours sur le fleuve Saint-Laurent avec des intervenants psychosociales. Elle se retrouve sur le Bleuet, un quillard de 36 pieds, pour découvrir les rouages de la voile. Chaque matin, elles partent de la marina de Cap-à-l'Aigle, à la Malbaie, pour y revenir plus confiante en soirée. On a choisi la voile parce que c'est une activité qui mise beaucoup sur la collaboration, dit Ariane Magny. C'est porteur de sens dans le rétablissement du trouble alimentaire parce que ça vient avec beaucoup d'isolement. La voile permet aussi de respecter ses limites. Dans un marathon, si tu arrêtes de courir, tu n'avances plus. Ici, si tu n'es pas à l'aise avec une manœuvre, le voilier va quand même avancer. Le groupe est là pour ça. Selon Ariane Magny, ce qui fait la force de l'intervention par la nature et l'aventure, c'est la discussion qui découle de l'expérience. Si une personne n'est pas à l'aise de prendre le gouvernail, mais qu'elle y arrive le lendemain, ce sera intéressant d'utiliser ça comme levier d'intervention. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle a réussi? Elle a mobilisé ses capacités d'adaptation. Au quotidien, comment pourrait-elle surmonter un inconfort? Si les participantes sont en rétablissement, les troubles alimentaires ne sont pas nécessairement une affaire du passé. Il reste des fragilités, précise la responsable des activités cliniques de la croisière des Alizés. Les pensées peuvent être envahissantes même si les comportements ne sont plus là. Il faut aussi souvent travailler sur l'estime de soi et la régulation émotionnelle. Marisol Ouellette, 21 ans, me le confirme. Elle a participé à la croisière des Alizés à l'été 2025, après avoir longtemps hésité à s'y inscrire. « Ma peur était par rapport aux autres », confie-t-elle. « Si toutes les participantes étaient plus rétablies que moi, j'avais peur de les tirer vers le bas. » Une intervenante l'a encouragée à poser sa candidature et une entrevue de présélection l'a rassurée. Marisol serait à sa place sur le voilier. Elle a rencontré les filles avec lesquelles elle naviguerait lors d'une fin de semaine préparatoire en plein air, ce qui lui a confirmé qu'elle avait fait le bon choix. Puis, la voile a opéré sa magie. C'est une pratique qui nécessite de te faire confiance et de faire confiance à ton corps, dit Marisol Ouellette. Quand on travaille sur le trouble alimentaire, ce sont des notions qu'on apprend, mais qu'on n'a pas toujours l'occasion de mettre en pratique. Marisol m'explique que le rétablissement est un spectre, puis qu'elle est aujourd'hui dans une zone difficile de ce continuum. Cette expérience-là, c'est la lumière dans ma rechute. Je sais que je suis capable d'être bien dans mon corps. ça me donne une dose d'espoir à laquelle je peux me reconnecter. La voile est devenue un pilier dans mon rétablissement. La jeune femme me parle de sécurité, ce sentiment qu'elle n'a pas connu souvent. Au-delà des pensées liées au trouble, c'est difficile de s'alimenter quand tu te sens en danger. Quand je fais de la voile, je suis enfin apaisé. Puis, elle me demande si j'accepterais d'écrire un truc en particulier. Je trouve ça incroyable que la croisière des Alizés existe et qu'on ait accès à ça gratuitement. Je trouve ça incroyable qu'Ariane, qui a un emploi à temps plein, prenne le temps de faire ça. Je ne vois pas pourquoi je refuserais de la citer. Aider autrui à apprivoiser la sécurité, ça se souligne. Ça s'applaudit même. Si vous êtes une femme de 14 à 25 ans en phase de rétablissement d'un trouble du comportement alimentaire, vous pouvez poser votre candidature pour participer à la croisière des Alizés jusqu'à la mi-mai. C'était « Se soigner grâce à l'aventure », un texte de Rosemée Autonne T. Morin, paru le 22 avril 2026 dans La Presse.
Courriel trompeur, ranimer un vieil iPad, paiement mobile en voyage. Un texte d'Alain McKenna, paru le 1er avril 2026 dans La Presse. Daniel Bonin, un lecteur, demande « Je reçois à l'occasion des courriels dont l'adresse de l'expéditeur contient mon adresse courriel. Y a-t-il une solution pour freiner ces arnaques ?» Recevoir un message de sa propre adresse peut donner des sueurs froides. Mon compte a-t-il été piraté ? Rassurez-vous, c'est une illusion numérique. Sur une lettre reçue par la poste, par exemple, l'expéditeur peut écrire n'importe quelle adresse de retour dans le coin supérieur gauche de l'enveloppe, y compris celle du destinataire. Le facteur livrera le courrier sans vérifier si l'identité de l'expéditeur est exacte. Par courriel, la mécanique est identique. Le système d'envoi des courriels est assez ancien. Il permet de maquiller facilement l'adresse d'origine. Les fraudeurs utilisent cette ruse pour vous effrayer et pour éventuellement vous hameçonner. Aucune solution technique miracle n'existe pour bloquer cette supercherie à la source. La meilleure parade reste le bouton « indésirable » ou « pourriel ». Si vous signalez ces messages à votre fournisseur, le filtre de votre boîte de réception deviendra plus sévère. Ne répondez pas et ne cliquez sur rien. Effacez le courriel. Votre mot de passe est probablement toujours sous bonne garde. Gilles Gélineau, un lecteur, demande « Je désire récupérer des photos dans un vieil iPad. Peut-on y avoir accès sans mot de passe? Est-ce qu'une firme externe peut y parvenir ?» La réponse va vous décevoir, mais prouve la sécurité de votre appareil. Sans code secret, votre vieil iPad est une brique, ni plus ni moins. Apple utilise un chiffrement matériel et le code numérique tapé à l'écran de ses appareils mobiles est l'unique clé de déverrouillage. Là-dessus, méfiez-vous des cliniques informatiques ou des logiciels virtuels et de leurs promesses miracles. C'est presque toujours une arnaque. Les seules entreprises capables de contourner cette barrière travaillent pour la police. Leurs outils coûtent des fortunes et restent inaccessibles au public. L'espoir ne se trouve pas sur la machine, mais dans le nuage. Si cette tablette était connectée à votre réseau sans fil à l'époque, vos souvenirs dorment peut-être encore sur les serveurs d'Apple. Allumez votre ordinateur et visitez le site d'iCloud. Connectez-vous avec votre profil Apple de l'époque. Vous y trouverez peut-être vos photos. Explorez aussi vos vieux disques durs pour dénicher une éventuelle sauvegarde iTunes oubliée. Monique Paradis, une lectrice, demande « Une policière à la retraite m'a recommandé d'enlever le paiement sans contact sur mon cellulaire en voyage et de payer avec la carte. Ce serait plus sécuritaire. » Par contre, elle recommande de payer avec le téléphone plutôt qu'avec la carte au Québec. Est-ce une bonne pratique ? Avec tout le respect dû à cette policière, son conseil repose sur une logique inversée. Le téléphone est plus sécuritaire que la carte de plastique, peu importe où vous êtes sur le globe. L'explication se trouve dans la technologie de la tokenisation du paiement sans contact. Lorsque vous approchez votre appareil d'un terminal, il ne transmet jamais votre véritable numéro de compte. Il génère et envoie un jeton unique et temporaire. Si un malfaiteur pirate le terminal d'un café à Paris ou d'une boutique au Québec, il récoltera seulement un code numérique éphémère, sans valeur. Une carte physique, elle, révèle ses vraies informations lors de chaque transaction. Un téléphone perdu ou volé exige votre visage, votre empreinte digitale ou votre mot de passe pour autoriser un achat. Une carte volée donne la chance au voleur de faire plusieurs achats sans contact avant le blocage du compte par votre institution financière. Le seul véritable risque avec un téléphone à l'étranger est une panne de batterie ou une incompatibilité de la carte de paiement choisie avec le terminal. La solution ? Utilisez votre appareil pour vos achats quotidiens et laissez votre carte bien cachée dans votre chambre d'hôtel comme plan de secours. C'était Courriel trompeur, ranimer un vieil iPad, paiement mobile en voyage. Un texte d'Alain McKenna, paru le 1er avril 2026 dans la presse.
Entre deux laïcités, un fossé. Un texte de Vincent Brousseau-Pouliot, paru le 27 mars 2026 dans la presse. On parle de laïcité depuis des décennies, mais au fil du temps, le consensus autour de cet enjeu s'est effrité, pour devenir le terrain d'une fracture. Notre chroniqueur se penche sur ce face-à-face entre deux visions d'un même principe. Le sociologue Gérard Bouchard parle de laïcité avec quelque chose de plus en plus rare dans notre monde polarisé, des nuances. Le coprésident de la commission Bouchard-Taylor est contre l'interdiction du port de signes religieux aux enseignants dans la loi 21. Il s'oppose aussi à l'idée d'élargir cette interdiction du port de signes religieux aux éducatrices en CPE. En même temps, Gérard Bouchard souhaite que la Cour suprême du Canada n'invalide pas la loi 21. Il trouverait ce dénouement extrêmement choquant et estime que ça compliquerait nos débats sur la laïcité. La Cour suprême n'a pas à se mêler de nos affaires. On est capable d'avoir nos débats et de les trancher à notre manière. Le sociologue de 82 ans, professeur émérite à l'Université du Québec à Chicoutimi, est conscient d'être assis sur un siège qui n'est pas très confortable. Souverainiste, il trouve que le gouvernement Legault est allé trop loin et aimerait qu'on revienne au compromis de son rapport, mais par une loi de l'Assemblée nationale, pas par une décision de la Cour suprême. A-t-on montré que le port de signes religieux endoctrinait les élèves, que ça les intimidait, que ça les mettait mal à l'aise? Pas du tout. Je trouve ça gratuit. Est-on en train d'exagérer l'application du principe de laïcité de l'État au Québec? La laïcité de l'État comporte quatre grands principes. La séparation de l'État et des religions, la neutralité religieuse de l'État, l'égalité de tous les citoyens, la liberté de conscience et de religion. La question du port de signes religieux chez les employés de l'État revient souvent au premier plan. Le rapport Bouchard-Taylor recommandait en 2008 l'interdiction du port de signes religieux chez les employés de l'État qui exercent un pouvoir de coercition, policiers, procureurs de la couronne, juges. Ce compromis faisait consensus à l'époque. Je cite Simon Jolin-Barrette en octobre 2018. Il y a une chose qui est sûre. C'est que le consensus du rapport Bouchard-Taylor est présent au Québec. Les Québécois s'attendent à ce que les personnes en situation d'autorité ne portent pas de signes religieux. En 2019, avec la loi 21, le gouvernement Legault a interdit le port de signes religieux aux policiers, aux procureurs de la couronne, aux juges et aux enseignants, avec une clause de droit acquis. En 2025, il a ajouté tout le personnel des écoles publiques, y compris les bénévoles. Avec le projet de la loi 9, étudié actuellement à l'Assemblée nationale, il veut maintenant élargir l'interdiction aux éducatrices en CPE, avec une clause de droit acquis. Pour toutes ces nouvelles interdictions, il a utilisé la disposition de dérogation. On s'éloigne de plus en plus du compromis Bouchard-Taylor pour des raisons qui ne sont pas toujours claires. aucune preuve empirique ne montre que le port d'un signe religieux, en l'absence de prosélytisme, exerce une pression morale quelconque sur autrui. Dit Jocelyn McClure, professeur de philosophie à l'Université McGill, qui a été analyste expert à la commission Bouchard-Taylor. Beaucoup de Québécois semblent penser qu'on est en train d'aller trop loin. Selon un récent sondage Léger, 62% des parents québécois trouvent acceptable que les éducatrices en garderie portent des signes religieux visibles à visage découvert, un voile. L'État du Québec était laïque bien avant la loi 21. À partir des années 1960, l'État a comblé le rôle joué par l'Église dans l'éducation. En 2000, le régime scolaire a été déconfessionnalisé. Au Québec, il y a un consensus sur la laïcité, un principe essentiel pour vivre ensemble dans nos sociétés plurielles, dit Jocelyn McClure. L'enjeu, ce n'est pas le principe de la laïcité, c'est la façon dont on l'applique en pratique. À ce chapitre, il y a deux visions. La première, l'État est laïque et neutre sur le plan religieux. Il ne favorise ou ne défavorise aucune religion. Selon cette vision, on peut restreindre la liberté de religion dans le domaine public, mais on essaie de le faire le moins possible et seulement pour des motifs raisonnables. Tous les citoyens sont traités de façon égale par l'État et peuvent vivre en fonction de leurs croyances religieuses ou non religieuses lorsque celles-ci sont raisonnables, n'imposent pas de violation des droits d'autrui ou ne menacent pas l'ordre public, dit Jocelyn McClure. Personnellement, j'adhère à cette première vision de la laïcité de l'État, aussi défendue par le rapport de la commission Bouchard-Taylor. La deuxième vision est celle d'une laïcité plus stricte, inspirée de la France et défendue par le gouvernement Marois puis le gouvernement Legault depuis 7 ans. Selon cette vision, au nom de la neutralité religieuse de l'État, on peut interdire le port de signes religieux chez certains employés de l'État. Par exemple, selon le professeur Guillaume Rousseau, l'article 41 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec donne aux parents le droit à des établissements scolaires et à des CPE laïques, d'où l'interdiction du port de signes religieux chez les employés des écoles et des CPE. Les parents, certains étant musulmans, ne souhaitent pas que leur enfant soit sous pression. Je trouve ça parfaitement légitime, dit Guillaume Rousseau, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Sherbrooke, qui est conseiller du ministre Jolin Barrette pour la rédaction de la loi 21 et co-auteur du rapport Pelchat-Rousseau sur la laïcité. Il est l'un des avocats du mouvement laïque québécois devant la Cour suprême. Maître Rousseau voit la clause de droit acquis comme un compromis acceptable entre la liberté de religion des employés et le droit des parents d'avoir accès à une éducation laïque pour leurs enfants. Il faut respecter les deux. Il y a des parents qui vont s'en plaindre et des éducatrices, sans droits acquis, qui vont voir ça comme une atteinte à leur liberté de religion, dit-il. C'est la meilleure solution pour respecter les droits de tout le monde. Je suis en profond désaccord avec l'analyse de Guillaume Rousseau qu'a faite sienne le gouvernement Legault. Les droits et libertés ne sont jamais absolus. Le CPE et l'école peuvent être laïques, même si des employés portent des signes religieux. L'important, c'est de ne pas laisser entrer de prosélytisme religieux dans nos écoles et nos CPE, peu importe l'habillement des employés. D'ailleurs, la loi 21 n'a pas prévenu les dérapages à l'école Bedford. Et si la laïcité de l'État était vraiment compromise par la présence d'enseignantes et d'enseignants ou d'éducatrices portant un voile ou une kippa, on n'octroierait pas une clause de droit acquis, estime Jocelyn McClure. On ne ferait pas une telle exception si on sentait qu'une valeur fondamentale était en jeu, dit-il. La laïcité de l'État est une valeur fondamentale au Québec. Il faut pouvoir parler de ce sujet complexe avec nuance. Pourtant, des politiciens et commentateurs prétendent qu'être contre certains aspects de la loi 21, c'est être contre la laïcité et contre la nation québécoise. C'est une logique pernicieuse. On peut tout à fait être à la fois pour la laïcité, défendre les valeurs québécoises et s'opposer à l'interdiction de porter un signe religieux pour les enseignants et les éducatrices en CPE. En 2013, un ténor du mouvement souverainiste a demandé au gouvernement Marois de modifier son projet de charte des valeurs. On n'a jamais passé une loi ou des règlements pour interdire quoi que ce soit de religieux, a-t-il dit en entrevue à RDI. On a fait évoluer les choses graduellement vers une laïcité qui est à peu près totale. Pourquoi diable veut-on légiférer là-dessus ? Est-ce qu'on pourrait simplement calmer le jeu et on adopte les recommandations de Bouchard Taylor? L'auteur de cette déclaration aimait profondément le Québec et avait à cœur la laïcité de l'État. C'était Jacques Parizeau. C'était « Entre deux laïcités, un fossé », un texte de Vincent Brousseau-Pouliot, paru le 27 mars 2026 dans la presse.
La dépression n'est pas qu'une question de tristesse. Un texte de Virginie Soffer, paru le 8 avril 2026. On associe la dépression à une immense tristesse. Pourtant, cette représentation simplifiée ne correspond pas toujours à ce que vivent les personnes qui en souffrent, selon une étude menée par Serge Lecour, professeur au département de psychologie de l'Université de Montréal, et son étudiant Alexis Gondolf, auprès de plus de 60 adultes de la région montréalaise. Les résultats montrent notamment que la gravité des symptômes dépressifs est fortement associée à l'hostilité dirigée contre soi ainsi qu'à une difficulté à mentaliser la tristesse, c'est-à-dire à reconnaître et à mettre en mots cette émotion. Observer les émotions dans les récits de vie. Pour mieux comprendre ces dynamiques émotionnelles, les chercheurs ont recruté 62 adultes âgés de 18 à 60 ans ayant fait une demande de soins psychologiques. La gravité de leur dépression a d'abord été évaluée selon l'échelle de dépression de Hamilton. Les participants ont ensuite pris part à une entrevue semi-dirigée durant laquelle ils devaient raconter des expériences relationnelles marquantes ayant suscité différentes émotions, notamment de la tristesse. Ces entretiens ont été transcrits et analysés. Les chercheurs ont relevé des centaines de moments émotionnels évoqués, par exemple « Je me sentais triste »,« J'étais fâché » ou « Je m'en voulais ». Puis ont coté chacune de ces émotions. Ils ont utilisé la grille de l'élaboration verbale de l'affect, conçue par Serge Lecour, ainsi qu'une mesure permettant de distinguer 24 émotions exprimées dans le discours. Si l'on veut comprendre comment les émotions sont réellement vécues, il est utile d'observer comment elles apparaissent spontanément dans le récit, précise Serge Lecour. Quand les émotions restent dans le corps. L'étude repose sur une distinction importante dans la régulation émotionnelle. D'une part, la dimension quantitative correspond à la fréquence et à l'intensité des émotions ressenties. D'autre part, la dimension qualitative concerne la capacité à mentaliser les émotions, c'est-à-dire à les reconnaître, à les comprendre, et à les exprimer à l'aide de mots ou d'images. La mentalisation consiste à transformer ce qui se passe dans son corps en expérience psychologique, explique Serge Lecour. Lorsqu'une émotion est peu mentalisée, elle reste plus proche du corps ou de l'action. Une personne peut ainsi se dire épuisée, ralentie ou sans énergie, sans nommer explicitement la tristesse sous-jacente. Selon les résultats, les individus présentant davantage de symptômes dépressifs ont tendance à moins bien mentaliser leur tristesse. Chez certaines personnes dépressives, la tristesse n'est pas vraiment reconnue comme telle. Elle se manifeste plutôt sous forme de détresse ou de sensations corporelles, indique Serge Lecour. Cette observation rejoint d'ailleurs certains symptômes de la dépression, comme la fatigue, la perte d'énergie ou les difficultés de concentration. Le poids de la tristesse comme indicateur de la dépression? L'une des découvertes les plus surprenantes de cette recherche est que la tristesse exprimée n'est pas nécessairement le meilleur indicateur de la dépression. En demandant aux participants de raconter des expériences liées à la tristesse, les chercheurs ont observé que les personnes dépressives évoquaient souvent d'autres émotions. Elles parlaient plutôt d'interactions difficiles, souvent marquées par de la colère, de l'injustice ou de la culpabilité. et leur réaction consistait fréquemment à s'en vouloir, explique Serge Lecourt. Même lorsque les intervieweurs orientaient la discussion vers la tristesse, les participants ne mentionnaient pas une expérience claire de perte ou de chagrin. Ce phénomène correspond à ce que le psychologue Carol Izard appelle la tristesse compliquée. Chez certains individus, cette tristesse se mêle à d'autres affects comme la culpabilité, la honte ou le mépris de soi. Selon Serge Lecourt, cette dynamique peut s'expliquer par l'histoire émotionnelle des personnes. Dans plusieurs cas, la tristesse n'a pas été une émotion permise. Être triste pouvait être perçu comme un signe de faiblesse ou de vulnérabilité. Alors quand la tristesse apparaît, elle est rapidement remplacée, explique-t-il. Moins d'attachement envers les autres. L'étude a également révélé des corrélations dans la vie relationnelle des participants. Les personnes présentant davantage de symptômes dépressifs évoquaient moins souvent des sentiments d'amour ou d'attachement envers les autres. À l'inverse, leur discours contenait plus d'expressions de désir ou de manque, comme « j'aurais voulu » ou « j'aurais aimé ». Selon Serge Lecourt, cela pourrait refléter une vie relationnelle insatisfaisante. Les relations ne sont plus vécues comme des sources de réconfort, mais comme des lieux de conflit et de déception, ce qui est également associé à l'anhédonie, soit une perte de plaisir. Des implications pour la psychothérapie. Ces résultats contribuent à mieux comprendre la dépression et à orienter certaines interventions thérapeutiques. Les personnes dépressives se trouvent dans un état plus douloureux. Elles ont besoin qu'on soit plus présent, plus validant, plus consolant. Elles ont souvent tendance à être très sévères envers elles-mêmes, mentionne Serge Lecourt. Une partie du travail thérapeutique consiste à aider le patient à reconnaître cette autocritique et à mettre des mots sur son expérience émotionnelle. Quand une émotion est mieux mentalisée, elle devient souvent plus tolérable. On peut commencer à la réfléchir plus tôt que simplement la subir, conclut-il. Mieux comprendre la manière dont les émotions sont vécues dans la dépression permet ainsi d'affiner les approches thérapeutiques et de répondre plus efficacement aux besoins des personnes concernées. C'était « La dépression n'est pas qu'une question de tristesse », un texte de Virginie Soffer, paru le 8 avril 2026.